En habit vert, rencontre avec un académicien.
Jacques Rougerie est un homme peu banal. Élu à l'Académie des Beaux-Arts en 2008, cet architecte visionnaire conçoit des habitats sous la mer. Il est profondément attaché au monde sous-marin et c'est pour cette raison qu'il aime se définir comme un mammifère marin, se sentant plus à l'aise dans son scaphandre que dans son habit vert. Jacques Rougerie s'inspire de la forme des méduses, des raymontas ou même des hippocampes pour construire ses habitats. Et s'il est bien sûr conscient de la fragilité des profondeurs de cet écosystème, il aborde l'avenir avec un optimisme et une énergie sans faille. Dans cet épisode d'En habit vert, il retrace son parcours, il évoque ses premiers mentors comme Jules Verne ou le commandant Jacques Cousteau. Il présente aussi ses projets les plus fous comme le vaisseau Sea Orbiter. L'académicien se raconte avec une grande générosité, mais vous verrez, il préserve aussi quelques secrets bien gardés. Il nous accueille sur sa péniche à Paris, un endroit sur l'eau hors du temps, à deux pas de l'Assemblée nationale. Bonjour Jacques Rougerie.
Bonjour.
Alors, c'est un fait un peu inédit. Nous nous sommes déportés hors de l'Institut aujourd'hui.
Eh bien, bienvenue à bord.
Oui, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu le lieu où on se trouve?
Là où nous sommes?
Oui, pour les auditeurs
alors,
qui ne
nous
voient
pas. Puisqu'il faut que l'auditeur imagine un peu où nous sommes, en plein cœur de Paris, mais où? Sur l'eau, sur une péniche, au pont de la Concorde, du côté place de la Concorde. Vous voyez, ça bouge un peu, vous l'avez senti?
J'ai un peu le mal de mer même.
Oh non! Non, non, ça c'est votre imaginaire là qui commence à bouger.
En tout cas, vous, c'est un lieu à la fois où vous travaillez et vous
et
vivez
je vis.
Aussi personnellement.
Oui, absolument. Ça fait maintenant un peu plus de 40 ans que je suis sur ce lieu. Vous voyez mon monde où ces dessins, ces maquettes et tout. C'est de là qu'est partie toutes ces créations de centres de la mer, d'architecture, et puis de maisons sous-marines dont on va parler, je pense, biomimétiques.
Et oui, parce que Jacques Rougerie, construire des habitats sous l'eau, c'est pour vous bien plus qu'un métier, c'est un projet de vie. Vous vous définissez d'ailleurs comme un mérien. Vous avez inventé ce néologisme. Les mériens, ce sont les habitants de la mer, ceux qui veulent vivre en symbiose avec elle.
Avec le monde sous-marin.
Avec le monde sous-marin.
Parce que vous avez mes cousins, les marins, qui sont les hommes de la surface, que j'appelle avec beaucoup de tendresse les aveugles de la mer, parce qu'ils ne regardent pas sous la surface de la mer. Alors que nous, les mériens, nous sommes le peuple du monde en trois dimensions, du monde sous-marin. C'est une autre philosophie.
C'est quoi la philosophie d'un mérien, justement?
Tous les marins s'identifient entre eux. C'est une grande tribu planétaire qui a toute une philosophie, des règles, des mœurs, des histoires, des cultures, des chants. Vous voyez, ils s'identifient. C'est comme des montagnards. C'est comme les motards. Vous savez, les motards, eh bien, c'est pareil. Les motards s'identifient entre eux. Eh bien, le monde des mériens, c'est toutes ces femmes et ces hommes qui ont cette chance de pouvoir explorer et de vivre momentanément. On en parlera peut-être. Comme j'ai pu faire, vivre sous la mer. Et donc, ça vous donne une autre perception de cet univers, d'autres sensations, c'est-à-dire que les cinq sens sont complètement différents. Vous n'avez pas la même vision, le même toucher, le même odorat. Voilà, donc, vous êtes emprunt après d'un imaginaire dû à ces sensations, dû à ces mystères ou ces beautés que vous pouvez voir. Vous construisez toute une vie autour de cet imaginaire.
Alors, petit, vous disiez que vous rêviez plus souvent de scaphandre que de fusée. C'est un imaginaire qui s'est façonné au contact des plages de votre enfance, parce que votre enfance, vous l'avez passée en Côte d'Ivoire jusqu'à 11 ans. À quoi ressemblait ce bord de mer qui était le paysage de vos premières années?
D'abord, c'était merveilleux parce qu'il y avait cette immensité de ces plages africaines. Il y avait surtout l'océan Atlantique. J'étais fasciné par l'horizon de cet océan. Et de l'autre côté de l'océan, de l'autre côté du cordon lagunaire, il y avait la lagune, justement, avec la forêt vierge. Et c'était un monde prolixe d'animaux. Et j'étais empreint de tout ce contact assez fort, violent même par moments, avec la nature. Et c'est sûr que ça m'a donné une empreinte indélébile. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu l'accompagnement à travers mes parents, qui ont été des êtres merveilleux.
Votre mère était mathématicienne.
Alors, ma mère était mathématicienne, était chercheuse mathématicienne. Elle jouait de la musique, elle jouait entre les mathématiques et la musique. Et mon père était explorateur avec Paul-Émile Victor, avec un certain nombre d'explorateurs comme Théodore Monod et tout. Voilà, donc j'étais baigné dans ce monde d'exploration. Je rêvais à travers leurs histoires qui vivaient physiquement. Donc le soir, souvent, il y avait ces explorateurs à la maison. Et ça me faisait rêver, je les écoutais avec passion. Et évidemment, je me suis baigné tout de suite dans le monde de Jules Verne. Milieu sous les mers, vous imaginez bien, et de la Terre à la Lune. Et puis c'était, après, ça a été le départ de Gagarine qui est parti dans l'espace. Il y a eu la chaîne Leica qui m'a fait pleurer, vous imaginez bien, quand j'ai su qu'elle ne reviendrait pas sur Terre. Donc ça m'a fait rêver, cet homme qui part dans l'espace et en même temps, Cousteau allait sous la mer. Donc ces deux grandes explorations chères à Jules Verne, ben, et il disait, Jules Verne, il faudrait peut-être 500, peut-être 1000 ans avant que l'homme aille sous la mer, vivre comme Nemo, et à peine 100 ans après, ça a été le cas. C'était fabuleux.
Et vous avez parlé de Jules Verne et de 20 milieux sous les mers, vous le citez régulièrement. Vous avez baigné très, très jeune dans cette science-fiction qui pour vous n'a pas vocation à rester de la fiction. Pour la plupart des gens qui vont lire ces livres, ces mondes décrits sont faits pour rester à l'état du rêve. Pour vous, non, pas du tout.
Ah non, pas du tout. Non, c'était de la prospective. C'était pas de la science-fiction. Jules Verne ne faisait pas de la science-fiction. Jules Verne, il faisait de la prospective. Il avait un système très, très bien rodé avec des étudiants qu'il envoyait à la recherche des différents brevets de la fin du 19e siècle, début du 20e, enfin 19e siècle plus exactement. Et voilà, et il imaginait des romans à travers ce qui était en train de naître dans le monde industriel. Donc c'était de la prospective. Et moi, je ne fais pas de la science-fiction, je suis dans la prospective, c'est-à-dire de ressentir les mondes qui sont en train de naître et comment on peut les accompagner à travers, évidemment, une passion, une audace, une connaissance qu'on a d'un métier d'architecture, recréer des cadres de vie pour ces êtres, ces femmes et ces hommes qui vont vivre momentanément sous la mer ou qui vont vivre momentanément dans l'espace. Et c'est un monde qui m'a donc fasciné. Alors après, comment bâtir tout ça? C'est encore une autre aventure.
Alors votre cœur a pas mal balancé entre l'océanographie et l'architecture. Vous avez magnifiquement combiné les deux. J'ai lu que c'était après avoir assisté à une manifestation pour la sauvegarde des baleines que vous
êtes dit... Ah, ça, c'est encore une autre histoire. Ça, il faudrait que je vous livre un jardin secret, là. Mais c'est une boutade, hein, prenez-le comme ça. Greenpeace venait d'être créé et Rémi Parmentier, un des fondateurs de Greenpeace, m'a demandé, il m'a dit « Jacques, viens avec nous avec Greenpeace ». Et moi, je ne sais pas, c'est, à l'époque, rappelez-vous, Greenpeace, avec les zodiacs, ils se mettaient face aux baleiniers et il y avait les harpons qui passaient juste à quelques centimètres de leur visage. Moi, je n'ai pas cette force de caractère, mes combats sont autre part. Et en plaisantant, j'ai dit à Rémi, et c'est resté un peu comme une légende, j'ai dit à Rémi, eh ben moi, je voudrais traire les baleines, je vais aller traire les baleines, je vais faire un bateau, d'ailleurs la maquette est ici, pour aller traire les baleines. Ça voulait dire, pour essayer de transformer ces chasseurs de baleines en éleveurs de baleines.
Alors, ce n'est pas tout de rêver de maisons sous la mer, il faut les construire. Vous vous définissez comme un rêveur pragmatique, vous le dites,
oui,
vous
oui,
dites
oui,
souvent.
Je suis un grand rêveur, et aujourd'hui plus que jamais, mais j'ai besoin de réaliser les rêves. Donc, je me suis toujours donné les moyens, je ne suis pas toujours arrivé.
J'imagine qu'on ne construit pas des maisons sur Terre de la même façon qu'on construit des maisons sous l'eau.
Non,
quelles sont les contraintes techniques?
Oui, c'était la difficulté. Enfin, la difficulté, oui et non, et la passion. Ça a été fait d'une façon très empirique, parce que les premières maisons sous-marines, donc je me suis basé sur déjà cette connaissance des autres, c'était important. Et pour moi, j'étais fasciné par Léonard de Vinci, le génie de Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci, c'était pour lui le génie de la nature, comment construire le futur. Et c'est ce qu'il disait d'ailleurs à ses étudiants. J'adore cette phrase, allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est le futur. Bon, il y a 500 ans, qui pensait que c'était le futur de l'humanité, c'était de comprendre ce que représentaient les 3 milliards 800 millions d'années de création de la nature à travers des complexités extrêmes. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur toute l'œuvre de Léonard de Vinci qui m'a ouvert les champs des possibles sur ces maisons sous-marines, c'est-à-dire comprendre comment une méduse se déplace en consommant le moins d'énergie possible et faire Poulmo. C'est comme ça qu'il y a exactement 50 ans, j'ai lancé le projet Poulmo avec Jacques Piccard. Et puis après, d'autres projets, comme ces fermes sous-marines basées sur le radiolaire. Mais ce n'est pas singer la nature, c'est comprendre le génie de la nature, comment la nature, les animaux se sont adaptés, la biodiversité à des situations complexes, comme je disais, et à trouver des nouveaux matériaux, trouver de nouvelles formes. Par exemple, quand on sait que Léonard de Vinci regardait les libellules et il essayait de comprendre comment cet animal merveilleux était en géostationnaire, c'est incroyable comment cet animal peut rester en position fixe. Mais c'est comme ça qu'est née l'idée de l'hélicoptère.
Et c'est exactement ce que vous faites, c'est dans la nature que vous trouvez...
L'inspiration, ouais. Pour aller plus loin, créer des architectures sous-marines, ce n'est pas du tout la même démarche que de créer des architectures terrestres. L'architecture terrestre, eh ben, vous avez le plancher, vous êtes en deux dimensions, l'horizon, en général, la ligne d'horizon qui est un des points référentiels. Sous l'eau, eh ben, c'est l'inverse. Sous l'eau, vous avez la poussée d'Archimède, la pression, vous avez la troisième dimension. Donc, vous ne pouvez pas penser de la même façon l'architecture, l'approche d'une maison sous-marine. D'abord, une maison sur Terre, eh ben, vous marchez à la verticale, de préférence. Et puis, vous avez la porte, donc vous rentrez par une porte qui est verticale. Dans une maison sous-marine, eh ben, imaginez comment vous rentrez dans une maison sous-marine qui est pressurisée. Eh ben, vous rentrez par le dessous. Ça paraît bizarre. D'abord, vous commencez à l'aborder par le dessus, par le toit. Donc, hop, vous la voyez d'en dessous, et puis après, hop, vous faites le tour de la maison sous-marine, et ce n'est pas en dessous, parce que la pression de l'air, vous maintenez la pression de l'air par rapport à la pression de l'eau, et l'équilibre, l'interface des deux, fait que hop, vous rentrez à l'intérieur, et vous avez comme un lagon à l'intérieur de votre maison sous-marine. C'est complètement magique. Et là, vous avez la voie qui est déformée, donc vous reconnaissez pas tout à fait bonne voie, et puis toutes les sensations au niveau tactile, vous ressentez pas les mêmes choses, mais
on respire différemment aussi.
On respire différemment. Vous êtes au bout d'un moment, quand vous arrivez en saturation, c'est-à-dire au bout de 24 heures de vécu dans une maison sous-marine, vous sortez de la maison sous-marine, vous revenez, vous sortez, vous revenez autant de fois que vous voulez. Vous êtes dans une sorte de cocon qui vous enivre et qui vous amène dans une autre situation. Équilibre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire dans vos prises de décision, dans votre comportement, dans le relationnel à l'autre qui rentre dans la même configuration que vous. Et c'est fantastique, c'est comme dans l'espace. Si vous posez la question aux astronautes, ils vous diront la même chose. Vous ressentez des sensations tellement fortes dont vous rêvez, parce que tout ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Vous l'avez cherché depuis des années, vous en avez rêvé, et puis le jour où ça arrive, c'est extraordinaire. Vous rentrez dans cette maison sous-marine, vous dites « Ah, je vais vivre combien, une semaine, 15 jours ?» C'est ce qui m'est arrivé 13 fois. C'est extraordinaire, parce que le temps passe, et puis vous dites « Ah, je m'endors sous l'eau, vous vous rendez compte ?» Vous réveillez la nuit, « Ouf, je suis sous la mer !» Donc, je ne sais pas, c'est le choc que ça procure, cette joie que vous êtes tellement... Ben, c'est comme tous ces marins qui parcourent le monde, le Vendée Globe, une fois qu'ils sont partis de la ligne de départ, après, ils rentrent dans leur monde, dans leur imaginaire, dans leur passion, dans leur rêve. On parlait de rêve, ils accomplissent leur rêve. C'est un engagement face à la vie, face à un territoire qui est un nouveau territoire qu'il faut connaître, protéger, qui est le monde sous-marin. Donc, il faut y aller physiquement.
Mais est-ce que physiologiquement, je me demandais, l'homme peut rester, vivre de manière indéterminée dans un habitat sous l'eau? Est-ce que, je ne sais pas, le manque de lumière naturelle
ne
pourrait pas poser problème?
Oui, c'est comme dans l'espace. Les limites, on ne les connaît pas très, très bien. On croyait que l'homme dans l'espace dépassait un an, ça serait très, très, très difficile. Sous la mer, c'est pareil. Le premier homme que j'ai eu la chance de plonger avec lui et de le connaître, c'est Volodya Titov. Le premier homme qui a vécu un an dans l'espace, il s'appelle Volodya Titov, c'est un Russe. C'est grâce à Jean-Luc Chrétien, qui est mon meilleur ami. Jean-Luc Chrétien, qui est le premier astronaute français, donc qui me l'a présenté. On a vécu ensemble dans une maison sous-marine. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut vivre très longtemps sous l'eau. C'est le côté psychologique qui est
plus difficile, la solitude.
Voilà, parce que le côté physiologique, le côté... on s'y prépare, mais physiquement, on s'entretient. Enfin, on fait du sport à l'intérieur de ces maisons sous-marines, on fait du sport à l'extérieur, on fait de l'ergonomie, on cherche l'équilibre des sens. C'est un tel bonheur, on ne peut pas imaginer ce que c'est que de vivre sous la mer. C'est vraiment de telles sensations, de tels rêves, qu'il est difficile de les partager, vous voyez. Quand j'ai participé au record du monde sous la mer en 92 aux États-Unis.
71 jours.
Oui, c'est ça. Mais c'est pareil, vous préparez longtemps l'avance psychologiquement, et puis c'est quelque chose qui se fait en équipage. Donc vous savez, de telles expériences de l'espace sous la mer, ou peu importe, en bateau ou en montagne, c'est quand vous êtes en équipage. Il y a un esprit de tribu, justement, tribal, qui ressort en vous, presque le côté animalier, qui fait que vous savez que votre survie ne dépend, dépend essentiellement de l'autre et vice-versa. Mm. Donc, les émotions qui sont fortes, souvent les doutes et tout, vous prenez sur vous. Mais c'est quelque chose que vous apprenez et qui va de soi, donc dans une sorte de modestie. Donc, c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de l'autre, des autres, de l'équipage. Tout ça, ça crée une ambiance particulière qui vous met en éveil des sensations, un esprit que moi, j'avais pas...
Tout à fait nouveau, oui.
Oui, mais quand il y a le tour du monde dans les courses, on a toujours des doutes, des moments de doute, surtout quand ces expériences se font sur des très longues durées. Donc, vous pensez bien qu'à un moment donné... Vous avez un petit coup de blues, hein, chacun, ça arrive à tout le monde, et vous ne pouvez pas le transmettre, vous ne pouvez pas, donc vous le gardez pour vous, et vous l'enfermez en vous, et sans que ça devienne un problème. Alors comment l'architecte peut peut-être appréhender, pourquoi un architecte, vous allez me dire, dans ses expériences, et bien justement, moi je voulais physiquement vivre ces moments forts, pour mieux comprendre comment créer ces espaces d'ergonomie et le faire autrement que ce qui avait été fait en toute humilité. Donc, c'est comme ça que l'intérieur de Galatée, ma première maison sous-marine, en toute humilité, c'est la première fois qu'une maison sous-marine avait été pensée complètement de A à Z par rapport à un vécu, vous voyez, et chacune de ces maisons, à chaque fois, l'ergonomie intérieure, les espaces ont été pensés par rapport...
à son environnement,
voilà,
aussi.
Par rapport à cet environnement spécifique.
Et c'est ça qu'on appelle aussi le biomimétisme, parce que moi, j'ai découvert ce que c'était en préparant l'émission. C'est s'inspirer du vivant pour construire
des innovations. S'inspirer du vivant pour savoir, à travers, comme je vous disais, les matériaux, les formes, les structures, les squelettes, on tend vers... une compréhension de ces formes construites de la nature.
Et alors vous, quels sont les animaux marins qui ont pu inspirer vos constructions? Il y a la méduse.
Plein, que ce soit la méduse, je vous disais. La méduse m'a énormément inspiré sur, par exemple, les aquabulles.
Voilà,
les aquabulles,
nous.
Comment stabiliser une aquabulle, comment déplacer Poulmeau, par exemple, ce laboratoire qu'on avait fait pour les abysses avec Jacques Picard. Que l'homme qui a été au plus profond des océans, à 11 000 mètres, et avec Jacques, on avait imaginé un engin qui se déplace comme une méduse, tout doucement, par pulsion, donc avec des systèmes de vérins. Et le crabe, j'avais imaginé un engin qui se déplaçait sur six pattes comme le crabe araignée, vous voyez, le long d'une plage, et qui rentrait sous l'eau, une maison sous-marine qui rentrait sous l'eau. Ça peut être la Raymanta, le squelette d'une Raymanta, donc ça a été la cité des Mériens pour l'UNESCO que j'avais dessinée. Mais une fois de plus, on ne fait pas un coquillage, une forme de coquillage. Là, on a fait le musée de la mer de Moréa en Polynésie. C'est une forme de coquillage, mais ça ressemble à aucun vrai coquillage. Mmh. Mais il y a une inspiration avec les lames de panneaux solaires, comme des lames de coquillage, vous voyez. Mais souvent, c'est aussi jouer sur les technologies. D'ailleurs, de plus en plus, les recherches se font dans ce sens-là, sur le biomimétisme. Hein. Même l'armée travaille énormément. Et maintenant, avec l'IA, ça va aller très, très vite. Avec l'intelligence artificielle, toutes ces données font qu'il y a une accélération dans cette connaissance. On ira encore beaucoup plus loin dans l'optimisation de ces structures, vous voyez.
Et il y a un autre projet qui profite de toutes ces innovations technologiques, j'imagine. Ce projet, c'est Sea Orbiter. C'est votre projet.
Alors là, c'est une autre aventure.
Fou, le plus ambitieux.
Oui, c'est fou. Oui, je n'ai pas peur des termes, vous pouvez dire ça. 25 ans qu'on a eu cette idée avec Jean-Loup Chrétien et Jacques Picard. on a décidé de faire un vaisseau d'une nouvelle génération d'exploration des océans. Et donc, ce vaisseau, j'ai pensé le mettre à la verticale pour des questions logiques, non pas pour le plaisir de faire du design pour du design ou de l'architecture pour l'architecture. Donc, il y avait une logique de positionnement, mais ce n'était pas logique pour des tas de gens. Voilà, c'était trop novateur, c'était un rêve pour eux. Oui, c'était un rêve, mais qui pouvait se réaliser, les technologies étaient là. Donc, on aurait pu le réaliser il y a 25 ans. Bon, là, on est... Je pense qu'on va y arriver, j'espère. L'immensité de l'océan est tellement grande pour connaître cette immensité du monde sous-marin qu'il faut des centaines d'engins de nouvelle génération qui permettent cette connaissance, ce vécu sous la mer des hommes et des femmes qui veulent explorer, comprendre cet univers qui est nouveau pour l'humanité. Et comment le protéger? Le protéger, il faut d'abord le connaître.
Le comprendre.
Voilà, le comprendre.
Ce projet, Sea Orbiter, vous le voyez comme un poste d'observation privilégié
permanente sous la mer d'un équipage donc de 24 personnes. Une partie de l'équipage vivra en saturation, c'est-à-dire à l'intérieur d'une cellule sous-marine qui leur permettront de sortir autant de fois qu'ils veulent sous la mer, quelles que soient les conditions de mer, à moins 12 mètres de profondeur. Et puis une partie en pression atmosphérique de l'équipage. C'est un projet qui vira une collaboration de toutes les universités océanographiques dans le monde, mais pour ouvrir cette connaissance au plus grand nombre, pour comprendre que c'est les enjeux de demain, c'est l'espoir, enfin un des espoirs de demain de notre civilisation, d'ouvrir ce monde à travers les énergies renouvelables venant de ce monde marin, à travers la nourriture du futur, la pharmacologie du futur. Non, il y a tout à découvrir. On ne se rend pas compte de l'immensité que représente l'océan. On le voit en tant que surface, mais il faut le voir en tant que volume. C'est 3,7 km d'épaisseur d'eau sur 71% de la surface du globe. Donc, c'est phénoménal.
Et on ne sait pratiquement rien
de ces océans. Il y a des millions d'espèces à découvrir dans les abysses, entre autres, qu'on ne connaît pas. Encore pas. Il y a des micro-organismes qu'on va découvrir et qui vont nous surprendre. Donc, c'est un des seuls territoires encore relativement vierges. Bon, bien sûr, on parle beaucoup de plastique à juste titre. On parle beaucoup de destruction à travers la pêche sauvage, ce qui est vrai. Il faut faire ces aires marines protégées. Il faut être modeste. Voilà. Il faut composer avec la mer. La mer... Et cet univers est tellement immense qu'il faut avoir de l'espoir. Il faut croire qu'on va y arriver. Et c'est toujours pareil. J'y crois. J'ai ça en moi. Je crois au futur. Je crois à cette connaissance, à cette exploration. Et je suis sûr que ça va apporter de très, très bonnes choses pour les jeunes générations.
Et pour finir sur Sea Orbiter, vous estimez la fin des travaux à peu près à quand? Il y a une échéance qui est
fixée? Je n'ose plus le dire parce qu'il y a déjà 15 ans, je disais, dans 2 ans, on verra, pas dans 2 ans, mais dans 2-3 ans, on verra Sea Orbiter sur l'eau. L'année d'après, je disais, de bonne foi. Et puis, il y avait toujours quelque chose, un grain de sable qui fait... Donc, comme disait votre grand-mère et la mienne, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc non, pour revenir sur votre question, Sea Orbiter, j'espère qu'en 2028 au plus tard, on verra Sea Orbiter.
Et quand ce projet sera accompli, est-ce que vous considérez que vous aurez achevé votre œuvre ou alors il y a d'autres projets déjà?
Mon œuvre, non, c'est un bien grand mot.
Qui sortiront?
Je ne sais pas, je ne suis pas un peintre ou un sculpteur qui peut avoir ce genre de langage. Moi, je n'achèverai pas une œuvre. J'ai eu la chance d'appartenir à un équipage qui a perçu que le monde de demain irait vers l'espace et vers le monde sous-marin de plus en plus. Voilà, avec humilité, plus le temps passe, plus au contraire, je deviens peut-être un vieux sage africain. Donc l'Afrique m'a peut-être empreint de ces vieux sages qui me fascinaient, qu'on écoutait au coin du feu, dans la brousse ou dans la forêt vierge. Non, non, moi, c'est la transmission, que ça se perpétue. Donc, à travers ces jeunes qui vont beaucoup plus loin que moi dans la fondation, avec ces outils merveilleux que l'être humain a su créer, qu'est l'informatique, qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la connaissance et dans la façon de construire le monde de demain.
Vous mettez un point d'honneur à soutenir, aider la jeunesse, les plus jeunes architectes, notamment à travers cette fondation-là, Jacques Rougerie.
Ah oui, pour moi, c'est vraiment aujourd'hui ce qui me porte le plus. C'est donner de l'espoir aux jeunes, de leur dire « Allez-y, le monde, c'est vous qui le construisez ». Comme disait Michel Serres, notre civilisation arrive au bout du chemin, d'un certain chemin, pour bâtir le monde de demain. La plus grande force de l'imagination, c'est les jeunes qui l'ont et non pas les gens de ma génération. Donc, il faut être lucide là-dessus parce que nous, on a des acquis, on a des codes. Bon, on est plus ou moins, on dit qu'on est ouvert, mais tout compte fait, on est assez fermé, quoi qu'on en dise. Enfin, bon, je parle que pour moi. Comme je ne suis pas donneur de leçons, j'espère. Mais je vois bien à travers les jeunes qui m'interpellent dans leur imaginaire, dans leur façon de voir le monde de demain. Il faut que je prenne sur moi pour des fois ne pas justement être en contradiction avec tout ce que je viens de vous dire. Mais en même temps, très vite, je m'aperçois que ça me nourrit et c'est une sorte de source magique qui vous tient toujours en éveil de la beauté du monde et de cette évolution de la beauté du monde.
Et ça serait intéressant de savoir comment cette jeunesse perçoit aussi l'exploration et l'exploitation de cet océan.
Alors attention, je suis lucide quand même, comme je disais, je suis un rêveur, mais très très pragmatique, parce que pour construire les rêves, il faut quand même être très pragmatique. Je suis très lucide aussi sur la jeunesse, sur le désespoir de la jeunesse, je le vois et tout. Il faut savoir écouter ses doutes, mais il faut savoir aussi leur donner de l'espoir. Et pour donner de l'espoir, il ne faut pas que ça devienne trop anxiogène, vous voyez, dans les discours. Il faut montrer qu'il y a des possibilités de trouver des solutions et on a la capacité, on l'a prouvé à travers les siècles, de trouver des solutions. Et moi, je suis persuadé justement que l'accélération de l'IA va permettre de trouver des solutions beaucoup plus rapidement qu'on ne pense. Ça, c'est la force que va donner l'IA, qu'a déjà donné l'informatique à travers la connaissance des sciences. C'est des outils qui donnent une accélération dans la connaissance. Et plus, parce qu'il y a un côté, à l'heure actuelle, malheureusement, les jeunes se mettent à l'écart des sciences. Or, c'est l'inverse qu'il faudrait. C'est de plus en plus, il faudrait développer les matières scientifiques pour comprendre quelles sont les solutions qu'il faut apporter, comment les apporter durablement. Il n'y a pas de secret, c'est entre l'art et la science. Et avec le développement de très hautes technologies, qu'on aura un nouveau rapport entre l'homme et la nature, entre les êtres humains plus exactement et la nature. Voilà, qu'il y aura un équilibre. Moi, j'ai une intuition qui me fait dire que dans 100 ans, à la fin de ce siècle, tout ça sera du passé et ça paraîtra même presque ringard de parler de cette confrontation avec la nature. Ce sera engendré dans les jeunes depuis déjà un certain temps, 1, 2, 3 générations. On aura trouvé les solutions, j'espère.
Mais vous semblez porter beaucoup, beaucoup d'espoir sur toutes ces ressources que peut offrir l'océan.
Oui, mais attention, il ne faut pas les faire. Parce que là, à chaque fois, quand je dis ça, des jeunes me remettent au carré, et ils ont raison. Ils disent, oui, mais on est en train de polluer.
On est en train de saccager.
Ils ont raison. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut le faire autrement. L'espoir est là, mais il faut que ce soit une gestion raisonner, penser autrement, partir dans d'autres paradigmes de gestion planétaire des océans pour le bien commun de l'humanité. Donc, ce n'est pas aussi simple que je le dis, j'en ai conscience. Mm-mm. Mais on peut y arriver. C'est complexe. C'est pour ça, c'est tellement complexe qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de vérité. Personne n'a la vérité sur la solution à trouver. Ce sont des multitudes de solutions suivant les peuples, suivant les économies, suivant les cultures, suivant les lieux géographiques. Il faut adapter des solutions par rapport à tous ces lieux et ces cultures. Donc, il n'y a pas un savoir, il y a des savoirs et c'est ce qui fait la beauté du monde. En même temps, c'est ce qui a fait la diversité des civilisations à travers les siècles et les siècles. Et ce qui, moi, m'a fasciné, c'est pour ça que j'adore parcourir le monde, c'est qu'on apprend à ne pas avoir raison. On apprend qu'on peut penser autrement.
tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes sont capables de le réaliser.
C'est tellement vrai.
Ça, c'est une citation. Enfin, c'est Jules Verne, mais vous.
De Jules Verne,
mais vous l'êtes totalement approprié.
C'est ce que je pense depuis là aussi depuis très longtemps. Et c'est pour ça que vous me posiez la question sur ces orbitaires. À l'extrême, bien sûr que j'aimerais voir ces orbitaires réalisés et participer aux premières expéditions de ces orbitaires. Mais si je réalise pas ces orbitaires, j'ai une petite musique en moi qui me dit que d'autres le réaliseront, parce que c'est inéluctable, c'est un engin qui amène tellement de possibilités nouvelles, de connaissances, de l'exploration du monde sous-marin. Peut-être que d'autres, dans 20 ans, dans 30 ans, le réaliseront, et c'est très bien comme ça, après tout.
Alors, mais moi, j'irais un cran plus loin, parce qu'on parle pas mal aujourd'hui de l'homme augmenté, de l'homme bionique.
Ah.
Allons encore plus loin. L'homme poisson, est-ce que, selon vous, c'est
non.
ce qui nous attend?
Alors, attention, peut-être que c'est moi qui ai mes limites dans l'imaginaire, et c'est très, très, très possible. Quand je vous disais, je ne fais pas de science-fiction, même si j'ai énormément lu de bouquins de science-fiction, que ce soit Asimov ou d'autres, peu importe. Non, je pense que l'homme n'est pas fait pour retourner sous la mer. Il est fait pour... L'homme, les femmes ne sont les êtres humains. On est fait pour aller explorer ces nouveaux mondes sous-marins, parce que ça fait partie de la biosphère. Il n'y en a qu'une biosphère. Non, l'être n'ira pas vivre sous la mer définitivement. Ou alors c'est parce que je manque d'imaginaire et je veux bien l'accepter. Moi, par contre, je suis bien placé pour le dire. J'ai vécu sous la mer plusieurs fois, dans des maisons sous-marines. J'aimerais y retourner le plus souvent possible. Mais je ne me vois pas vivre définitivement sous la mer. Très longuement, oui. Je pense que j'ai le mental pour ça, j'ai la passion pour ça, comme les hommes dans l'espace. Si vous posez la question à Jean-Luc Chrétien, Claudie Aigneret, Thomas Pesquet et d'autres, ils vous diront « je repars demain dans l'espace ». Si vous dites à Jean-Luc « tu fais un voyage sur Mars, ça va prendre un an et demi », il est prêt à le faire. 2 ans, il est prêt à le faire.
Je vous dois un aveu, un secret. Il faut que vous sachiez que malgré les apparences et mon bel habit vert, je suis un mammifère marin. Habitué à vivre dans l'eau, à l'extérieur, je deviens vulnérable et mon souffle s'essouffle. Ne m'en veuillez donc pas si le débit de mon discours est parfois haletant. Peut-être aussi suis-je très ému aujourd'hui de me retrouver devant vous, dans ce lieu prestigieux. Claude Nougaro me disait « Le silence, c'est la parole des anges ». Aujourd'hui, en cet instant précis, je leur laisserai bien volontiers la parole, aux anges.
Vous avez été élu à l'Académie des Beaux-Arts en 2008, et comme la tradition le veut, vous avez reçu une épée d'académicien. Je veux bien que vous la décriviez, cette épée. À quoi elle ressemble,
cette
épée ?
Il vaut mieux que je la prenne.
Vous l'avez ? Ah, mais c'est génial !
Voilà.
Elle est incroyable. Je peux ? Alors, est-ce que vous pouvez la décrire ? Parce que elle a la forme d'un... C'est un espadon, c'est ça ?
Alors d'abord, elle représente toutes mes valeurs, toutes les valeurs que je porte par rapport à l'océan, par rapport au biomimétisme, au génie de la nature. Donc je l'ai dessiné, j'ai fait un prototype, et après évidemment je l'ai fait construire. Donc pour moi, c'était l'imaginaire, c'était de partir d'un animal marin, lequel il ne fallait pas que ce soit un animal précis, mais un animal qui s'apparente évidemment à toutes ces valeurs de cette épée que porte un académicien.
Il y a une je crois que c'est l'œil.
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, la forme, donc c'est bionique. Et puis après, de montrer que cet animal surveille, protège plus exactement, c'est un protecteur de ce monde sous-marin. Et donc, j'ai mis des yeux à cet animal. Vous voyez, avec donc des yeux, avec une perle rare des Tuamotu qu'on m'a offert dans les Tuamotu. Et au cœur de cet animal, alors c'est toute une histoire parce que j'aime bien tout ce qui est symbolique. Il s'est trouvé que, parcourant les mers du monde, j'ai ramené un petit peu d'eau de mer. Vous savez, la plupart des gens ramènent du sable dans des petites fioles. Moi, j'ai ramené un peu d'eau de mer
de Bretagne.
De Bretagne, entre autres, mais aussi des mers du monde dans lesquelles j'ai plongé, dans ces univers qui m'ont ouvert un imaginaire. Et j'ai donc au cœur de cette épée, donc qui se décompose en trois parties, comme vous pouvez voir, vous avez une sorte de ventre, le ventre de l'animal, et on a inséré quelques gouttes d'eau de mer d'un peu partout, des mers du monde. Pour tout vous dire, une épée, souvent, on a une devise sur une épée. Et moi, j'ai une devise qui est gravée à l'intérieur de cette épée.
Ah oui, on ne peut pas la voir.
Et non, parce que j'ai une idée parmi tant d'autres. C'est que ma devise, je veux que ce soit le jour de ma mort qu'on la découvre. Donc, il y a un...
Personne ne la connaît ?
Non, personne. Et donc, il y a un système que personne ne connaît, sauf celui qui a fabriqué, donc Artus Bertrand, qui a fabriqué, d'accord, qui fabrique, ouais, les épées. Ils savent comment ouvrir donc, l'épée, et les larmes de ma vie vont couler le long et on découvrira ma devise. Et mon fils ne veut pas qu'on l'ouvre, alors ça pose un problème.
Et alors, votre deuxième devise ?
C'est de l'océan que naîtra le destin des civilisations à venir.
Celle-ci, vous l'avez.
Voilà. Mais l'autre, elle est beaucoup plus forte.
Elle reste secrète. Pour finir, Jacques Rougerie, on voulait vous soumettre un petit questionnaire. C'est 3-4 questions. Il faut répondre du tac au tac. Alors, quel est l'animal marin que vous auriez aimé être, Jacques Rougerie ?
Sûrement un dauphin.
La plus belle mer ou le plus bel océan dans lequel vous avez nagé ?
Il n'y a qu'un océan sur la planète.
Est-ce que vous avez un rêve encore plus fou que Sea Orbiter ?
Ah oui.
Lequel ? J'essaye.
Aller dans l'espace.
Le son qui vous apaise le plus ?
Le chant des baleines.
Votre œuvre de fiction préférée ?
Les Prairies Bleues d'Arthur Clarke.
Et pour finir, la musique que vous avez en tête en ce moment ?
À qui me vient comme ça, et puis je ne sais pas pourquoi, en plus... Alors j'en ai deux, ils se sont télescopés, Beethoven et le Grand Bleu, je ne sais pas pourquoi, c'est ridicule.
Merci beaucoup, Jacques.
C'est moi.